toute vraisemblance, le faisceau de lumière était la tentative ultime et mystérieuse d'un Kerven aux abois pour exécuter quelque nouvelle abomination et justifier pleinement le déclenchement d'une action immédiate, par ailleurs préparée de longue date. Le journal de Smith rapporte que le vendredi 12 avril 1771, une troupe d'une trentaine d'hommes se réunit dans la grande salle de la taverne du Lion d'Or à Weybosset Point, de l'autre côté du pont. Étaient présents John Brown, le docteur Bowen qui avait apporté sa trousse de chirurgien, le révérend Manning, pour une fois sans sa fameuse perruque la plus grande de la colonie, le gouverneur Hopkins, drapé dans une grande cape sombre, et son frère Isaac, dernière recrue du groupe, John Carter, le capitaine Matthewson et enfin le capitaine Whipple qui était chargé de mener la troupe. Ces derniers, installés dans une arrière-salle, mettaient au point les derniers détails de l'expédition. Après quoi, le capitaine Whipple émergea dans la grande salle et donna ses instructions aux marins avant de leur faire prêter serment. Tous attendaient à présent l'arrivée d'Ezra Whedon, qui était chargé de surveiller Kerven et de signaler son départ pour la ferme. Vers 10h30, on entendit un grondement sourd sur le grand pont, suivi d'un bruit de fiacre dans la rue. Il n'était plus nécessaire de s'attarder davantage. Kerven, suspect déjà condamné, venait de partir pour sa dernière nuit de sorcellerie. Un instant plus tard, alors que le bruit des chevaux s'estompait en passant Muddy Dock, Whedon apparut. Les marins se rangèrent silencieusement dans la rue, portant à l'épaule qui un mousquet, qui un fusil de chasse, qui un harpon de baleinier. Whedon et Smith faisaient naturellement partie de la troupe, ainsi que le capitaine Whipple qui la commandait, Ezek Hopkins, John Carter, le capitaine Matthewson, le docteur Bowen et le révérend Manning. Moses Brown, absent lors de la réunion dans l'arrière-salle, les rejoignit vers 11h. Tous ces notables et leurs hommes, une bonne centaine de marins, se mirent en route sans attendre, avec une détermination inflexible, cependant teintée de quelque appréhension, lorsqu'ils laissèrent Muddy Dock derrière eux pour entamer la côte de Broad Street vers Pawtuxet. Arrivés à l'église d'Elder Snow, certains se retournèrent comme pour un adieu à Providence qui dormait dans la nuit étoilée de ce début de printemps. Les clochers et les pignons, plus sombres, se détachaient dans la nuit et une légère brise salée soufflait depuis la baie. Vega s'élevait au-dessus de la colline dont la ligne de crête n'était brisée que par le bâtiment du nouveau collège en construction à l'époque. En bas, la vieille ville rêvait, pendant que pour sa sauvegarde et son âme, un blasphème monstrueux, colossal, abominable, allait enfin être purifié. Une heure plus tard, les hommes arrivèrent comme prévu à la ferme des Fenner qui les informèrent des derniers mouvements de Kerven. Il était arrivé à la ferme une demi-heure plus tôt, aucune lumière n'avait été allumée, mais l'étrange faisceau était presque immédiatement réapparu. Alors que les Fenner terminaient leur rapport, une autre lumière jaillit vers le sud et les conjurés comprirent qu'un nouvel événement surnaturel et épouvantable allait se dérouler sous leurs yeux. Le capitaine Whipple ordonna à ses troupes de se diviser en trois groupes. Un premier, de 20 hommes, sous les ordres d'Eleazar Smith, devait prendre position au bord de la baie et tenir contre les renforts éventuels qui pourraient venir en aide à Kerven, à moins qu'on ne les appelle à la rescousse. Un second détachement de 20 hommes également, commandé par le capitaine Ezek Hopkins, devait descendre vers la rivière, derrière la ferme de Kerven, et enfoncer la porte de chêne dans la falaise à la hache et si nécessaire avec de la poudre. Le reste se dirigerait vers la ferme et ses annexes. Un tiers de ce dernier groupe était commandé par le capitaine Matthewson, qui avait pour mission d'investir le bâtiment aux meurtrières, un tiers par le capitaine Whipple, qui devait prendre la maison. Les autres encercleraient les bâtiments en attente d'un signal en cas de problème. Au premier coup de sifflet, le groupe de la rivière devait enfoncer la porte et s'assurer de tout ce qui pourrait vouloir sortir. Au son de 2 coups de sifflet, les hommes entreraient, engageraient éventuellement l'ennemi, et tenteraient la jonction avec le troisième groupe. Le détachement de l'édifice de pierre agirait de même. 1 coup de sifflet, il forcerait la porte. 2 coups, il entrerait, descendrait un éventuel escalier et tenterait de rejoindre les autres dans les souterrains où l'on estimait que l'affrontement final aurait lieu. Enfin, trois coups de sifflet constituaient le signal d'urgence pour les réserves, qui pénétreraient pour une moitié dans les profondeurs de la ferme et pour l'autre dans celle du bâtiment de pierre. Le capitaine Whipple était en effet convaincu de l'existence de ces catacombes et avait tout planifié en conséquence. Il avait sur lui un sifflet suffisamment puissant pour ne redouter aucun malentendu dans les signaux. Les hommes postés sur le rivage ne pourraient pas les entendre et seraient avertis par messager. Moses Brown et John Carter étaient avec ces derniers, tandis que le capitaine Mathewson était dans le groupe de l'édifice de pierre. Le docteur Bowen ainsi qu'Ezra Whedon suivaient le capitaine Whipple dans le groupe de la ferme. L'attaque simultanée serait déclenchée dès qu'un messager signalerait que les hommes de la rivière étaient prêts. Un peu avant une heure, les trois groupes quittèrent la ferme des Fenners, un vers la baie, le deuxième vers la vallée et la porte secrète, le troisième vers la ferme. Eleazar Smith, qui se dirigeait vers le rivage, parle dans son journal d'une marche sans histoire et d'une longue attente. Le calme fut troublé par un coup de sifflet lointain, suivi de cris et d'une explosion. Plus tard, un des hommes affirma avoir entendu des coups de feu au loin, et Smith ressentit le battement lancinant et sourd de mots effroyables résonnant dans l'air. Juste avant l'aube, un messager aux yeux hagards, répandant une odeur immonde, surgit et dit aux hommes de se disperser calmement, de rentrer chez eux sans rien raconter de cette nuit et d'oublier à jamais Joseph Curwen. L'allure de ce messager était à elle seule un témoignage au-delà des mots, car bien qu'il fût connu de tous, quelque chose d'indéfinissable dans son regard, en moins ou en plus, en ferait à jamais un étranger. La même impression fut ressentie quand, un peu plus tard, ses compagnons revinrent de cette ferme maudite. Ils avaient vu ou entendu des choses indescriptibles, des choses que les êtres humains ne devraient ni voir ni entendre, qu'ils ne pourraient jamais oublier, mais dont ils ne parleraient jamais, car il existe des limites terribles que l'instinct de survie empêche de passer. Dès le retour du messager sur le rivage, tous prêtèrent le serment implicite et muet de garder à jamais le silence sur cette affaire. Les rares bribes d'informations qui ont transpiré sur cette expédition terrible commencée au Lion d'Or proviennent du journal d'Eleazar Smith. Charles Ward a cependant retrouvé d'autres renseignements dans la correspondance des Fenners enfouie à New London chez un de leurs descendants éloignés. Ils y racontent le départ du raid en trois colonnes, les aboiements furieux des chiens de Curwen et la détonation qui précipita l'attaque. Ils rapportent également que directement après cette explosion, le faisceau de lumière jaillit à nouveau du bâtiment de pierre et qu'un moment plus tard, après deux coups de sifflet, ils entendirent des claquements de mousquets suivis par un effroyable cri rauque que Luc Fenner tentait de décrire dans sa lettre. Ce hurlement était inexprimable, et le correspondant note que sa mère s'est évanouie en l'entendant. Plus tard, on le perçut à nouveau, mais plus faiblement, puis une dernière fois mélangé à des coups de feu et à une nouvelle explosion provenant de la rivière. Au bout d'une heure, les chiens commencèrent à pousser des aboiements de terreur et le sol se mit à trembler si fort que les bougeoirs cliquetaient sur la cheminée. Une odeur de soufre se répandit dans l'air. Le père de Luc Fenner déclara avoir entendu trois coups de sifflet, le signal de détresse, mais il fut le seul. Les mousquets crépitèrent à nouveau, suivis par un cri moins aigu, mais encore plus effrayant que les précédents. C'était un cri rauque venant du fond de la gorge en même temps qu'un gargouillis immonde. C'est à ce moment que la chose flamboyante surgit de la ferme de Curwen et que les cris humains de désespoir et d'effroi redoublèrent. Les mousquets crachèrent le feu de plus belle et la créature embrasée tomba comme une masse. Une seconde identique apparut, suivie par un cri perçant d'origine clairement humaine. « Tout-puissant, protège tes créatures !» Il y eut de nouveau des coups de feu, et la chose fut abattue à son tour. Après, ce fut le silence, un silence d'un peu moins d'une heure. C'est à ce moment qu'Arthur, le petit frère de Luc, vit une sorte de brume rougeâtre monter de la ferme. Personne d'autre ne la remarqua, mais Luc ne douta pas de son existence, car juste à ce moment, les trois chats qui étaient dans la pièce se raidirent et furent saisis de panique. 5 minutes plus tard, un vent glacial se leva et l'air s'emplit d'une puanteur intolérable que seul le groupe de la benne remarqua pas. Cette odeur, si immonde que personne n'en avait jamais senti de pareille, provoquait une terreur sourde, pire que celle de la tombe ou du charnier. Et puis il y eut la voix, une voix si terrible que quiconque l'a entendue ne pourra jamais l'oublier. Elle tonna du ciel comme une malédiction divine et fit trembler les fenêtres avant de s'évanouir brusquement. Elle était profonde et même musicale, grave comme une basse d'orgue, mais damnée comme les livres interdits des Arabes. Personne ne comprit ce qu'elle disait, car elle parlait dans une langue inconnue. Cependant, Luc tenta d'en retranscrire les sons démoniaques. J'ose à peine les prononcer. Desmes, Yeshet, Bon, Dosefe, Duvema, Enitemos. Personne jamais ne réussit à comprendre cette imprécation. Et ce n'est qu'en 1919 que Charles Ward, blême, découvrit qu'elle était celle que Pic de la Mirandole dénonçait comme le summum de l'abomination dans les incantations magiques. Un cri indéniablement humain sembla répondre à cette voix maléfique quand l'odeur insoutenable se doubla d'une nouvelle puanteur plus intolérable encore. Un gémissement s'éleva ensuite qui montait comme un ululement et redescendait brusquement. À certains moments, on eût dit que des mots étaient articulés, que personne ne parvint à comprendre. À d'autres, la plainte tournait au rire hystérique et diabolique. Enfin, un cri d'ultime terreur et de démence provenant de plusieurs gorges humaines éclata, après quoi ce fut le silence et l'obscurité qui s'étendirent sur toute chose. Des volutes de fumée âcre s'élevaient encore vers le ciel, bien qu'il n'y ait aucune flamme et que le lendemain, tous les bâtiments apparussent intacts. À l'aube, deux messagers transitent frayeurs, aux vêtements imprégnés d'une odeur abjecte, frappèrent à la porte des Fenères et réclamèrent un tonnelet de rhum qu'ils payèrent fort bien. L'un d'eux déclara à la famille que l'affaire Curven était close et que les événements dont ils avaient été témoins devaient être oubliés à jamais. Quoique cet ordre pût sembler incongru et arrogant, l'aspect de celui qu'il avait donné paraissait si effrayant qu'il ôtait toute envie de le discuter. Seules quelques lettres de Luc Fenner subsistent, bien qu'il ait clairement enjoint à son cousin du Connecticut de les détruire, ce qu'il ne fit malheureusement pas, sans quoi toute l'affaire serait tombée à jamais dans un oubli bénéfique. Charles Ward découvrit un détail supplémentaire à l'issue de longues recherches chez les habitants de Pawtuxet. Le vieux Charles Slocum se rappelait très bien une histoire racontée par son grand-père à propos d'un corps mutilé et calciné retrouvé dans les champs juste après la mort de Curven. Et si cette histoire, somme toute banale, était restée dans les mémoires, c'est que le cadavre n'était ni celui d'un être humain, ni celui d'aucun animal connu des habitants de Pawtuxet.